quand apparut on ne sait d'où le comte de Saint-Germain, avec un fastueux étalage de richesses dont on n'a jamais connu l'origine. La cour et la ville tombèrent en admiration devant ses prestiges. Personne n'aurait eu garde de révoquer en doute son assistance aux noces de Cana et à la bataille de Marignan. Cagliostro trouva une foi aussi candide en 1779 à Strasbourg et à Paris en 1785. Il occupa à lui seul les 100 voix de la renommée. Tous ceux qui ne croyaient pas à l'évangile crurent fermement à Cagliostro et au nombre prodigieux de ses jours, dont la dernière période écoulée était de 5587 ans. Mais le plus grand courant allait à la franc-maçonnerie. Lorsque Voltaire fut reçu dans la loge des Neuf Sœurs, le mardi 7 avril 1778, présidé par le vénérable Jérôme de Lalande, l'astronome, il fut présenté par l'abbé Cordier de Saint-Firmin, édifiant une particularité de la part d'un dignitaire de l'Église, se portant pour garant de la dignité d'Herclin. Voltaire signait Herclin, ce qui veut dire « Écrasons l'infâme ». L'infâme, c'était Jésus. Il y avait ce jour-là le comte Alexandre de Stroganov, chambellan de l'impératrice de Russie, le comte de Saint, le prince Emmanuel de Salm-Salm, le comte de Milly, le comte de Turpin-Crissé, le prince Camille de Rohan, le marquis de Sessoval, le comte de Sesmaison, le comte de Jouy, le marquis de Lorte, le chevalier de Villars, le comte de Noé, le président de Meslay. Qu'allaient donc faire là ces grands seigneurs? Ils allaient conspirer contre Dieu, contre la royauté, contre leur titre de noblesse en compagnie des Condorcet, des Diderot, des D'Alembert, des Cabanis, des Dupaty, donner la collade à l'imbécile Courbe de Gébelin, au docteur Guillotin qui leur préparait un instrument de supplice, au frère Chic, premier violon de l'électeur de Mayence, au musicien Salentin, Caraoglio, Olivet. Prêt à cendre le tablier d'Helvétius, fondateur de la loge, Voltaire porta pieusement cette relique à ses lèvres. Puis il fut couronné de laurier par Larive, acteur de la comédie française. Lorsqu'enfin le désordre fut à son comble dans les mœurs, dans la foi, dans les idées, Satan suscita Weishaupt pour en précipiter les conséquences. Weishaupt, professeur de droit canon à l'université d'Ingolstadt, inaugura le 1er mai 1776 la première loge d'une nouvelle maçonnerie de son invention, qu'il appela Illuminé, mais qui n'avait rien de commun que le nom avec l'illuminisme. C'était le système de conspiration universelle contre toute supériorité divine ou humaine, le plus savamment combiné, qui eût encore été mis au jour. L'auteur ne se proposait rien moins que l'abolition de Dieu, du culte, des rois et des lois, et l'établissement du règne de la raison. En 1790, l'Allemagne tout entière et la France étaient illuminées. La maçonnerie française, l'ancienne maçonnerie, illuminée ou non, était dépassée, débordée, presque chassée des loges. Tous les maçons étaient dès lors des conspirateurs ardents qui se donnaient la main d'un bout de l'Europe à l'autre. La Révolution française éclata enfin à son jour et couvrit l'Europe de ruines et de sang. On en sait l'histoire, mais le lion démuselé dévora ses nourriciers. Les auteurs de la Révolution même furent ses victimes. En 1790, il y avait encore 150 loges dans Paris. Quoique déjà beaucoup désertées par la noblesse, eurent cessé leurs travaux. En 1796, il n'y en avait plus que 3. Les autorités révolutionnaires avaient fait fermer les loges des provinces. La loi des suspects n'avait pas accepté les maçons. Les chefs des partis qui dominèrent successivement se firent guillotiner les uns les autres. En 1797, on ne parlait plus de franc-maçonnerie ni d'illuminisme, mais il restait encore de ça et de là quelques débris, quelques tisons fumants que Satan rassemblerait. Sans doute ces terribles jouteurs qui avaient déclaré la guerre à Dieu ne croyaient plus à rien, ni au diable, ni à quelque superstition que ce puisse être, ni à la révélation de quelque part qu'elle pût venir. C'est le contraire. Il est vrai qu'il n'était pas possible d'exercer en public l'art de la cartomancie, de la chiromancie ou de la nécromancie, ni de consulter ostensiblement les gens savants dans ces sortes de sciences, de crainte de se voir dénoncé comme conspirateur, ou du moins de paraître suspect au terrible comité de salut public. Mais en secret, les choses n'en allaient pas moins leur train. Les citoyennes savaient faire la cartomancie pour elles-mêmes et pour leurs amis. Il fut cassé bien des œufs dont le blanc ne servit d'aliment qu'à la curiosité. Comme c'était le moyen le moins compromettant de consulter l'avenir, on en usa fréquemment, même de fougueux conventionnels, les Brutus de ce temps-là, et les songes donc. Le Liber Mirabilis déterrait la Bibliothèque Nationale, on ne sait par qui, faillit causer une contre-révolution. La prophétie de Jean Prêcheguerre se trouvant être l'expression littérale des événements qui s'accomplissaient alors, inspira au lecteur le désir d'en chercher la suite dans le reste du recueil. Le nombre des curieux s'accrut démesurément, on fit des copies, on se communiqua au péril de sa vie. Les choses allaient leur train, lorsque le directoire, informé du danger que courait la République, fit mettre le livre sous les scellés où il devait rester longtemps. Une extatique du nom de Suzanne Labrousse avait équipé auparavant une grande attention en haut lieu. Dame Gerle, membre de l'Assemblée constituante, la prenait partout. Il demanda même à l'Assemblée la permission de la présenter à la barre pour la faire discourir sur l'avenir de la République. Mais les membres reculèrent devant un si grand scandale. La duchesse de Bourbon, qui avait toujours de l'admiration et de la crédulité en réserve, les deux évêques constitutionnels Pontard et Fauchet en faisaient leur oracle. Elle était si persuadée elle-même de la divinité de ses visions, de ses révélations et de sa mission, qu'elle entreprit le voyage de Rome pour convertir à ses idées le pape et le sacré collège. Elle se fit mettre en prison au château Saint-Ange. Catherine Théo baisait le récipiendaire en cet endroit du visage et lui passait la langue sur les lèvres pour lui communiquer le Saint-Esprit. Robespierre subit pieusement cette cérémonie. L'association nouait plusieurs intrigues politiques avec l'émigration et avec le célèbre ministre anglais William Pitt. Mais vers la fin du mois de mai 1794, le commissaire Sénard vint, accompagné d'agents, terminer brusquement la pièce, en se présentant tout à coup au milieu d'une réunion à laquelle il n'était pas attendu. Il jeta en prison la prophétesse, Dom Gerle et les principaux acteurs. Beaucoup de membres de l'Assemblée déposèrent séance tenant qu'ils avaient été les uns guéris miraculeusement par l'illuminé, les autres qu'ils avaient vu Dieu, vêtu d'une robe blanche, lui parler à l'oreille. Ceux-ci, qu'ils avaient vu le Saint-Esprit voltiger sur son tablier, ceux-là, qu'ils avaient vu son front environné d'une auréole de lumière. Le tout fut consigné sur le procès-verbal et signé des déposants. Robespierre, aussi contrarié que honteux d'un pareil dénouement, ne reparut plus au comité de salut public et rarement à la convention. Mais l'aventure valut du moins à la France le fameux décret sur l'existence de l'être suprême. Robespierre ne pouvait plus douter de l'existence de Dieu. Puisqu'il l'avait vu. Il a vu le Saint-Esprit voltiger sur le tablier de Catherine Théo. Le 17 juin suivant, le citoyen Vadier, juge rapporteur, entretint la justice et le public en un langage pompeux de la grande conspiration de la mère de Dieu. Puis on n'en parle plus. Les événements passaient si vite alors. Et d'ailleurs, l'accusé mit fin à la procédure en mourant à la conciergerie 5 semaines après son arrestation. Mémoire de Sénard, chapitre 15, le moniteur universel, 17 juin 1794. Lorsque s'ouvrit le XIXe siècle, tout était détruit, religion, morale, royauté, noblesse, franc-maçonnerie, illuminés et autres, souvenirs de Dieu et de Satan. Il ne restait plus debout que la force armée pour protéger la société. La force armée la sauva et la reconstitua sur un nouveau plan et des bases nouvelles. Napoléon et la portion aristocratique de son entourage avaient un pied dans l'Ancien Régime. Il ne faut donc pas demander s'ils en recueillirent une partie de l'héritage. D'ailleurs, Napoléon se regardait lui-même comme l'homme du destin. Il aurait mieux valu se considérer comme l'homme de la Providence. Il se servait d'un mot astrologique pour exprimer ses destinées. Il disait « Mon étoile », une magnétisée lui ayant prédit le succès de son expédition d'Égypte et l'événement ayant justifié la prédiction, il n'en devint que plus superstitieux. Il consulta très souvent un nécromancien du nom de Moreau, qui se vanta ensuite comme de raison de lui avoir prédit ses malheurs. En 1772, le père L., jésuite, professeur d'astronomie à Vienne, se trouva guéri d'un rhumatisme aigu en s'occupant d'expériences sur l'aimant et crut devoir attribuer sa guérison à l'effet des fluides magnétiques. Il s'en entretint avec Antoine Mesmer, astrologue et médecin, qui cherchait de son côté le fluide sidéral qui donne aux êtres la santé et la vie. Mesmer répéta les expériences, obtint les mêmes résultats et crut avoir trouvé son fluide. Ainsi va la vie, ainsi va le progrès, ainsi les choses changent, les choses bougent, les choses se transforment.